La Bringue.
T'arrives, on fait une guitare et tu sais pas si elle va marcher.
Le cerveau d'un musicien est différent, physiquement.
Il y a des décérébrés à faune qui tapent sur des gamelles en croyant faire de la musique, en bramant des mots imbéciles. Je n'aime pas ça.
Grâce à la musique, on peut vivre des choses qu'on ne pourrait pas connaître en dehors de l'univers du son.
Ok.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Paris, c'est Juliette pour La Bringue, notre rendez-vous mensuel immanquable dédié à la culture rock. Pour cette troisième saison, et oui on commence à vieillir, hein, je suis aux côtés de Flavie qui anime l'émission depuis ses débuts en 2019. Coucou Flavie.
Coucou.
Flavie, tu es attachée de presse et tu fais du booking chez Pilori Prod et La Liaison, pour qui tu fais aussi les entretiens. Tu travailles également au Biche Festival et tu es assise juste à côté de notre nouvelle recrue, Louise. Salut Louise.
Salut.
Alors toi Louise, tu as déjà bossé chez Rock and Folk Radio.
C'est ça.
Et il faut le dire, tu as aussi ton propre projet musical qui s'appelle Collage. Yes. Un duo de pop électro à texte bien trempé et surtout très féministe. Bien sûr, on envoie aussi une bise baveuse à Alex qui a quitté le navire de La Bringue cet été pour s'envoler vers d'autres aventures. Alors nous aussi, toutes les trois, on embarque avec vous vers de nouveaux horizons. Et pour cette première émission, on est très heureuse d'accueillir le groupe parisien Lulu Fun Trap qui répondra à nos questions et clôturera l'émission avec un live inédit en acoustique. Salut les Lulu.
Salut.
Hello.
La Bringue.
Au sommaire de cette émission, de la musique à gogo, un agenda de concerts bien garni par Flavie, une présentation du groupe Litige par Louise et évidemment du Lulu Fun Trap. On écoute tout de suite leur titre Brésil.
À son à l'heure, je fonce
Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez La Bringue. Nous sommes avec les membres du groupe parisien Lulu Fun Trap. Lulu Fun Trap qui fait des siennes depuis 4 ans. Entre une pop freaky, des shows somptueux ou encore des clips un peu tarés, il faut le dire, la bande est devenue vite inclassable. Mais l'OVNI vient d'entrer en orbite avec son premier album « I'm not here to save the world ». Rebecca, Max, Manu et Nico qui n'est pas là, bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir. Bonsoir. Ben on va super bien. C'est la bringue.
Mais oui, c'est la bringue. On vient d'écouter votre titre Brésil. Alors, c'est le titre qui ouvre votre premier morceau, I'm Not Here to Save the World, qui est paru le 23 avril dernier. Lulu Fun Trap, vous tournez depuis 2017 et on célèbre la naissance de votre premier disque cette année. Donc, félicitations.
Merci. Merci beaucoup.
On va rembobiner un tout petit peu. Comment s'est formé votre groupe ?
Alors, à la base, c'est un groupe qui émane un peu d'une formation précédente qu'on avait avec Max et qu'on a un peu transformé pour donner Lulu Fun Trap. Et les uns comme les autres, on vient d'un background beaucoup plus rock, voire punk et tout, que ce qu'on peut faire aujourd'hui, en fait, d'un truc beaucoup plus énervé. Et on a eu envie un peu de se retrouver autour d'une certaine, je sais pas, d'une certaine envie de faire des chansons d'amour, de parler différemment, de fédérer aussi, ouais, c'est un peu un groupe de maturité quoi pour nous. Et donc avec Max, on a commencé à faire ces chansons assez douces, mais avec quand même notre sauvagerie intérieure quoi. Et puis Nico et Manu ont vite rejoint le tout. Et voilà quoi. Et nous voilà.
Tu parlais justement de genres musicaux un peu plus poussés ou sortir un peu des gonds du rock. Et déjà avec Brésil, on voyait que c'était très très rock, c'était un peu pop aussi, un peu synthé. Mais votre album, il recèle d'autres styles différents. On a du punk, du reggae, du dub, on a même un fond un peu R&B. Vous vous situez où avec Lulu parmi toutes ces influences ?
Pile au milieu. Au carrefour, le Constantinople de la musique.
Et est-ce que c'est vos anciens groupes ? Donc Rebecca et Max, vous étiez dans La Mouche, c'est ça ?
Ouais.
Et Manu et Nico dans Spa Massage, c'est ça ?
Exact.
Et c'est vos anciens groupes qui vous ont inspiré cet éclectisme au niveau des genres musicaux ?
Non, c'est juste nous. Je pense qu'on... Je sais pas exactement si c'est nos anciens groupes, mais on a toujours écouté beaucoup de musique et du coup... On voulait pas se cantonner à un seul style de musique et du coup faire tout ce qu'on a sur notre iPod en nous-mêmes quoi. Voilà.
Je crois que Louis, tu avais une question pour eux.
Ah oui, parce que vous parlez tantôt en français, tantôt en anglais, vous chantez, pardon. Et du coup, comment est-ce que vous choisissez telle ou telle langue pour une chanson ?
Bah, en vrai, en général, la langue s'impose un peu d'elle-même. C'est vrai qu'on a cette volonté d'écrire dans les deux langues parce que les deux se prêtent très différemment et se complètent très bien à tous les styles musicaux qu'on traverse, mais aussi à tous les moods, quoi, si on veut. Et c'est vrai qu'après, j'ai une grosse tendance à écrire plus en anglais et les garçons me poussent à parfois retraduire mes chansons en français pour avoir plus de français, pour être dans une espèce de parité absolue français-anglais. Et parce que c'est vrai que pour crier des grandes chansons d'amour désespérées, l'anglais, c'est tout de suite très, très kiffant, quoi.
Mais, c'est vrai.
Ouais, non, les deux langues permettent en fait d'explorer un éventail d'émotions encore plus grand qu'en se cantonnant seulement à une langue, je trouve. Et voilà, quoi. Si je parlais d'autres langues encore, je pense que j'aimerais écrire dans d'autres langues.
Par contre, le titre de l'album, il est bien en anglais. Je le redis parce que mon accent est magnifique, mais « I'm not here to save the world ». C'est marrant de proposer un titre qui contient une négation. On dirait souvent que c'est pas très vendeur. Mais qu'est-ce que ça signifie, du coup, pour vous, ce titre ?
Bah, au contraire, c'est... même si... En fait, il contient une négation parce que c'est... En fait, on est dans un moment où on nous demande tellement d'avoir une multiplicité de compétences, de talents, d'envies, d'être des espèces de super humains un peu, que en fait juste faire l'assertion de ça, je ne suis pas là pour le faire, en fait, ça libère toutes les autres choses. Je sais pas comment dire, en fait, dire je suis pas là pour sauver le monde, c'est genre le plus grand truc. Enfin, c'est-à-dire personne n'attend de moi de sauver le monde. Mais en fait, je sais pas comment dire, c'est la libération, en fait, de.
C'est une forme de liberté
ça.
Aussi, en fait.
Enfin, c'est genre, n'attendez rien de moi à part tout ce que je vais pouvoir faire, autre que ce que vous attendez peut-être quelque part.
Tu ouvres l'horizon, quoi, avec ce titre. Voilà. Et revenons un peu, du coup, sur votre processus de création. Comment s'est déroulée la conception de cet album ?
La plupart des morceaux ont été créés soit en acoustique, soit en formule très réduite. Un petit synthé cheap et une guitare acoustique, parce que c'était un peu la base, c'était vraiment faire des morceaux que tu puisses jouer à la plage au mois de juillet. Et après, y a eu tout un travail de jouer beaucoup les morceaux en live pour voir comment ça marchait, comment ça prenait avec le public. Il y a vraiment une dimension très, très concert sur tous les morceaux de l'album. Et ensuite, on a une phase de redigestion de ces morceaux du coup après concert avec du coup Asdin qui est notre producteur et du coup on a tout revu, on a recréé des sons, on a vraiment fabriqué un peu l'identité sonore et en allant dans des effets, utilisant des synthés particuliers, etc. pour vraiment obtenir le son qu'on voulait obtenir et voilà, je pense que c'est une réponse.
Et qui écrit, qui compose? Qui écrit, qui compose, du coup, au sein du groupe?
Du coup, Rebecca, elle écrit beaucoup. Elle écrit toutes les paroles du groupe. Et la musique, ça dépend des morceaux. Il y en a un qu'on a composé vraiment tous ensemble. Un qui a été composé par Manu. Et sinon, la base, c'est... j'arrive souvent avec des idées que je soumets à Rebecca et ensuite elle me dit oui ou sinon non, et dans ce cas-là je suis triste et je les mets dans une boîte qu'on ouvrira sans doute jamais et donc voilà. Et après tout ce qui est floraison astrale, c'est ensemble, enfin, il y a toujours des bases d'idées avant qu'on bosse à quatre, mais les morceaux ont vraiment la gueule qu'ils ont aujourd'hui grâce à nous quatre, en fait. Il y a vraiment ce truc de chacun trouve ses parties, etc. Donc on arrange tous ensemble, voilà. Et tous les morceaux ont eu au moins 2-3 visages différents avant d'avoir le look d'aujourd'hui, quoi.
Et l'album, il est sorti en 2021, c'était une année un peu spéciale. J'imagine que vous avez passé le Covid avec un bout de l'album, non ?
Ouais, ça fait un moment qu'on se trimballait avant de le sortir, en fait. C'est vrai qu'il tournait un peu entre nos mains et voilà, quoi. C'était même plus qu'on avait hâte, on était résignants, on est passé par toutes les émotions possibles et imaginables pour cet album, quoi. Et finalement, quand il est sorti, c'était juste waouh, enfin, quoi.
Enfin, il est là. C'est... Ouais, ouais, c'était... c'est pas s'en débarrasser, mais enfin,
non,
quand même, c'est enfin le défendre,
ouais,
le sortir.
Voilà,
quoi.
C'est vraiment genre enfin, il tourne plus juste dans nos têtes à nous, quoi, parce que ça faisait un moment, quoi.
Et justement,
qu'il était en boucle.
Cet album, je trouve qu'il y a une narration dedans. On dirait que vous racontez un peu une histoire du matin au soir. Et est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé, que vous l'avez construit ?
Mais de ouf, mais je me souviens avec Manu. On s'était vachement posé sur justement le déroulé et tout des chansons et il m'avait dit ce truc qui m'avait marqué, genre il faut que ce soit comme un putain de bon roman, quoi, tu vois, avec une situation de base et puis un élément déclencheur, une errance, une résolution, peut-être encore un petit machin, et puis à la fin, bon, le personnage, nous on est plutôt branché personnage qui meurt, mais
voilà, anti-héros.
C'est pas un roman hyper joyeux, je pense, mais qui contient beaucoup de joie. Mais peut-être que la résolution n'est pas n'est pas des plus heureuses, quoi. Enfin, finit quand même sur un espèce de chanson d'abandon absolu. Mais ouais, donc on a vraiment essayé de le construire comme ça, avec ce fil rouge, quoi. I'm not here to save the world, et qui qui n'était pas du tout notre... C'est-à-dire, on n'a pas conçu cet album en pensant à ce titre, en pensant à ce thème-là, du tout. C'est des chansons qui sont sorties de nous pendant vraiment la jeunesse de ce groupe et qui ont accompagné aussi notre vie et nos déboires et nos réflexions de ce moment-là, sur aussi notre amitié à tous les quatre qui naissait, parce qu'avec Max, on se connaissait depuis très longtemps. Hein. Nico, on le connaissait depuis un petit peu moins... Enfin, tu vois, d'un coup, on est devenus une famille aussi, tous les quatre, et cet album, il raconte ça aussi, cet amour qu'il y a entre nous, et voilà, quoi.
C'est la naissance de plein de choses, alors.
Ouais, c'est un album de naissance, quoi, vraiment.
Et c'est un peu comme le Rise and Fall of Ziggy Stardust de David Bowie ou le Night at the Opera de Queen, en fait. Je trouve que...
Ouais, c'est du même niveau, ouais.
Au niveau de la conception, moi, je trouve qu'en tout cas, il y a un monde, en fait, qui gravite autour de votre album. Et comment est-ce qu'on fait entrer tout un univers dans un disque?
Je sais pas. Je sais...
Ça se fait assez naturellement, ça. Je sais pas trop.
C'était pas intentionnel, en tout cas.
On a mis un bout de notre univers, parce qu'il y a même pas toutes les chansons qu'on avait écrites à ce moment-là, mais on a essayé de rassembler, de faire un best-of de nous-mêmes, déjà.
Ouais.
Et voilà, quoi. C'est un bout de notre univers. Il y a pas tout, non plus, tout ce qu'on avait à raconter. Mais la suite, mort tout comme.
Ah. La suite arrive donc. Et on est en train de mentionner Queen ou Bowie, des artistes iconiques des 70s. Est-ce que ce sont des années qui vous inspirent, les années 70?
Grave, ouais. Grave. Après, on essaye de toute façon, notre musique, de par les instruments qu'on utilise, de par plein de choses, a forcément un gros ancrage dans le passé. Et on essaye de pas non plus s'apesantir là-dessus, de pas trop regarder là-dessus, de traiter tous ces sons et toutes ces choses qui peuvent nous ramener à ça, mais de la façon la plus moderne possible, d'y apposer des paroles les plus actuelles possibles aussi et tout. Donc on essaie de pas trop s'inscrire dans du revival de quoi que ce soit, mais c'est vrai que les années 70 ont eu un espèce de c'était un espèce de big bang absolu de plein d'énergie, de style, d'espoir, collisionnait tous ensemble, et nous on ressent un peu ça aussi, enfin on vient de ça, on a aussi bien du punk que des espèces de rêves complètement hippies qui vivent en même temps en nous, quoi. Donc ça peut nous ressembler beaucoup, ouais.
Voilà, vous essayez pas de rester bloqué dans les années 70 ou de refaire des années 70 non plus?
Non, pas du tout.
D'ailleurs, il paraît qu'on vous bassine avec les Rita Mitsouko.
Non, c'est pas vrai.
Bon, alors, ok, votre producteur, c'est Asdin Jelil, c'est ça? Qui est le producteur de Catherine Ringer.
Oui, donc voilà, c'est...
Donc forcément, on rattache tout de suite aux Rita Mitsouko, mais bon, si on enlève les Rita Mitsouko, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui vous inspirent?
Bah ouais, il y en a beaucoup.
La liste est très longue.
Il n'y a que ça.
Vous pouvez nous en citer quelques-uns, du coup?
Ouais, grave. Gorillaz nous inspire énormément. On a... Quoi d'autre? On a aussi, franchement, genre, tout un pan de la scène R&B US aussi, genre, qui nous inspire de ouf. R&B pop, tu vois, genre, avec Tyler, The Creator, ou des gars comme ça, tu vois, qui sont dans un espèce d'art total, tu vois, et qui se réapproprient, justement, cette espèce de truc, tu vois, dont on parle des années 70, tu vois, cette façon de réinventer le monde, de reconsidérer des idéaux, tu vois, enfin j'ai l'impression que ça existe vachement, tu vois, par exemple dans cette scène-là, tu vois, alors que c'est pas du tout le même style de musique, mais il a une façon de faire de l'art total comme ça qui est ouf, quoi. Et je sais pas, il y en a plein, quoi.
Ouais, il y a beaucoup de groupes qui sont comment dire, t'as des ambiances que tu vas chercher chez des groupes qui sont un peu des puristes, tu vois, dans le je sais pas, il y a beaucoup de choses, je sais pas, The Fall, Country Teasers, les Beach Boys, enfin tu vois, c'est que des trucs mais qu'ont besoin un peu, enfin de notre point de vue, qu'ont besoin les uns des autres pour nous faire ce qu'il fait, ouais, tu vois,
d'une dépendance, vous prenez tout et faut que tout vous soit mixé, en fait, pour que ça vous plaise et que vous tirez le meilleur de ça, en fait, de toutes ces influences Mais c'est bien d'avoir des influences variées comme ça, parce que c'est ce qui s'entend, je trouve, moi, sur votre musique, du coup. Ça se répercute. L'album, d'ailleurs, il est bluffant parce qu'il y a un mixte d'influences. Et je trouve qu'à la fois, vous sortez des morceaux qui cartonnent et à la fois des morceaux beaucoup plus intimes, comme The Echo, par exemple. Comment, d'où vient cette ambivalence entre des morceaux hyper rock qui envoient et quelque chose de beaucoup plus personnel?
Je pense que c'est... Pardon.
Non, vas-y.
C'est... Enfin, cette musique, c'est un moyen un peu de, pour nous de se réconcilier avec les 15 000 émotions et les 15 000 personnes qu'il y a dans notre tête à chacun. Donc, forcément, ça zigzague un peu, quoi. Je sais pas, tu voulais dire quoi?
En fait, là, quand on a commencé, du coup, à écrire des chansons pour Lulu Van Trapp, on était vraiment... On faisait que des chansons hyper intimes. Et en fait, le côté rock est revenu un peu au galop... quelques mois après, quand on a vraiment commencé à bosser avec Manu et Nico, parce qu'avant c'était vraiment très très playa, très romance d'une autre planète. Donc il y avait un peu ce truc là et il y a une partie de nous qui est effectivement hyper sentimentale et l'autre qui est un peu pleine de rage. Donc c'est avec toute logique que ça se ressent dans les morceaux de l'album, je pense.
Puis peut-être sur le live aussi, ça vous donne envie de... en scène, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe d'organique quand on décharge une rage d'énergie, etc. Plutôt que, comme tu disais, les premiers morceaux qui étaient plus sweet.
Ouais, carrément. T'as ce truc de live que nous, on kiffe absolument. Et quoi. C'est vrai que rien ne remplace un bon coup de fuzz.
Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de Gorillaz et d'Art Total. Et moi, je trouve que ce qui marque aussi le trait de caractère de I'm Not Here to Save the World, c'est aussi sa pochette qui a été dessinée par Apollo Thomas. On voit 4 personnages. On dirait que c'est vous. On peut imaginer que c'est vous, par exemple.
J'imagine bien.
Voilà. Nous reconnaissent.
Au bord d'une falaise, dans un décor rétro-futuriste. Alors, on ne sait pas trop si c'est l'aube ou si c'est le crépuscule. Mais au centre, on a une femme qui nous montre quelque chose hors champ. Et je ne veux pas forcément savoir ce que regarde cette femme, mais... Qu'est-ce qu'elle nous révèle, cette pochette, en tout cas?
Justement, elle nous parle, elle nous parle de ça, de cette libération de I'm not here to save the world. Donc, allons voir tout le reste, allons parcourir tout le reste. Et justement, ce monde un peu en ruine, tu vois, qu'on peut voir derrière, c'est tout ce qu'on a envie de délaisser, tu vois. C'est ce monde... auquel on n'a pas vraiment l'impression d'appartenir, ni qu'il nous appartient finalement. Enfin, il y a une espèce de décalage un peu absurde, tu vois, entre les idéaux et le monde dans lequel on vit. Et je pense que justement, c'est bien que ce personnage, du coup, c'est moi.
C'est toi qui l'incarne.
Qui est hors champ, je pense que justement c'est bien que ce soit pas montré, que ce soit juste la projection de chacun, quoi, et que justement tu regardes cette pochette en écoutant les chansons, et si t'arrives à imaginer ça, c'est gagné, quoi. On a gagné, quoi.
Tout public peut s'imaginer ce qui se passe derrière la pochette de cet album, finalement, donc, ouais. Et se l'approprier.
Complètement.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause pour jeter un coup d'œil aux news musicales. Alors Flavie, côté concert, on a quoi?
Ouais, j'ai essayé de faire une petite sélection des concerts à venir pour cette fin octobre, début novembre. C'est cool, c'est bien chargé. On avait déjà repris la route des concerts cet été, avec notamment une grosse proposition du Supersonic au Trabendo. Mais depuis la rentrée, c'est presque le retour à la normale. Et putain, ça fait du bien. On a pu voir des très belles choses, comme par exemple revoir Seize à l'international. On a fait de la découverte avec un Gaspard Ricard au Supersonic ou un Magistral Serpent à la Boule Noire. Plein de choses. Et je fais aussi une aparté toute fraîche là, parce que j'ai repris une claque là tout récemment, jeudi soir, au Mama avec Structure, quoi. À chaque fois, ça me remue, mais là, putain, je sais pas si c'était le son de la machine du Moulin Rouge ou quoi. Enfin, vous y avez joué, mais désolé, j'ai dû arriver juste un peu
après.
C'était
trop bien, on a vu Structure aussi.
Ouais, ouais, je t'ai aperçu dans les premiers rangs, et je me suis dit, ah, il y en a un autre qui kiffe. Mais ouais, franchement, c'était, je sais pas comment dire, un torrent, quoi. C'était vraiment un beau concert, ça faisait du bien. Et en tout cas, y en aura d'autres pour les semaines à venir. Peut-être pas aussi intense, je sais pas. On verra, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'ai noté, par exemple, le jeudi 21 et le vendredi 22, Il y a Fontana Rosa et le lendemain Palma qui sont à l'international. L'international qui nous fait aussi une super belle proposition là depuis la reprise. C'est trop cool. Et j'en profite aussi pour faire un petit focus sur le groupe Dégage qui jouera le samedi à la cartonnerie. Le samedi 23, j'ai oublié un chiffre, à la cartonnerie de Reims et le lundi 25 octobre au Supersonic. On va d'abord écouter un petit extrait de leur morceau Château Blanc et je vous en parle un petit peu juste après. Extrait de Château Blanc de Dégage, extrait de leur EP éponyme qui est sorti le 15 octobre sur le label Attitude. Ils sont de Reims, ils étaient sélection Inouïe en 2015, à la suite de quoi ils ont fait une trentaine de dates, donc de très beaux festivals comme le Cabaret Vert ou le Magnifique Society. Ensuite est arrivé ce que vous savez, qui leur a permis en tout cas de bosser sur cette EP, de l'enregistrer à la maison, de bien préparer sa sortie et les lives qui vont l'accompagner. En tout cas, perso, j'ai hâte de voir ça en live, parce que ça, je les avais aperçus en 2019 aux Inouïs, mais ça a bien évolué depuis. Et début novembre, je vous conseille fortement de la soirée Tourtoisie qui aura lieu au Hasard Ludique. Vous aviez joué aussi d'ailleurs, je vous y avais vu, je me souviens, je viens d'y repenser. Et ce soir-là, en tout cas, Tourtoisie propose Moïse Turitzer, Bichus, Dycrap et Steve Amber. Perso, je pense que je ne vais pas louper, c'est des groupes que j'affectionne particulièrement. Le 16 novembre, on se donne rendez-vous au Point Éphémère pour une soirée Les Femmes s'en mêlent avec La Battue, Good Morning TV et Loua. Les 19 et 20 novembre, il y aura deux soirs de concerts dans 6 salles pour la soirée avant-garde de Pitchwork avec notamment les Rouennais Dance Schooling, les fameux En attendant Anna et en groupes internationaux Wet Leg et TV Priest. Et il y a bien sûr encore des dizaines et des dizaines d'autres concerts. On refera un petit point dans la prochaine émission. Donc là, c'était ceux à venir un peu pour le mois qui arrive. C'est vraiment une sélection perso, mais évidemment, je vous laisse découvrir et savourer surtout ce qui nous a manqué pendant autant de mois, voire d'années.
Et salut, c'est Louise. Alors moi aujourd'hui j'avais envie de me présenter un petit peu parce qu'en fait on s'est jamais rencontrés ici. Du coup, je viens du 92, non loin de Paname. J'ai fait un détour de 3 ans en Angleterre pour quelques études de musique. Là-bas j'ai découvert la radio et je suis revenue en France où j'ai fait mes propres podcasts. J'ai effectivement travaillé, comme l'a dit Juliette, à Rock & Folk Radio. Et maintenant je débarque ici à La Bringue et je suis super contente d'être là, donc enchantée. Moi cette semaine je me suis chopée, je pense que ça s'entend dans ma voix, une saleté de rhume. Mais vraiment le rhume qui te plaque au fond du lit, hein. Je ne sais pas si vous le voyez celui-là qui est vraiment vraiment trop long. Donc ça fait une semaine, il n'est pas fini. Et du coup, comme je n'arrivais pas à travailler, je me suis penchée sur la musique pour me requinquer et en plus il paraît que je suis pas la seule, vraiment avec le Covid, le virus, les petits virus moins importants nous ont fait un petit caprice cette année, j'ai l'impression qu'ils reviennent vraiment en force, donc j'ai décidé de soigner aussi les auditeurices qui seraient peut-être terrées au fond de leur couette ce soir, entourées de leurs mouchoirs comme moi, et il se trouve qu'en ce moment j'ai un groupe que je saigne presque tous les jours, qui m'a bien aidée et qui était dans notre petite playlist punk il y a 2 semaines, c'est Litige. Alors Litige c'est un groupe lyonnais formé en 2014 par Morgane, Camille et Tiffen, qui forment le fameux trio du rock guitare, basse, batterie, puis qui a été rejoint rapidement par Louise au chant. Donc c'est un groupe majoritairement de meufs, ce qui fait toujours plaisir. Elles font du punk rock qui tabasse, le tout avec des mélodies presque pop et des textes à propos féministes. Donc ça, ça m'a bien aidée. Et je peux vous dire que ça donne un bon coup de peps, surtout pour se lever, comme ce matin par exemple. Alors je vous conseille vraiment l'album En eau trouble, rempli de petites pépites comme Nicktoo, Samouraï ou encore Regardez-moi. Mais mon préf de la semaine, c'est Bulldozer. Bulldozer, c'est vraiment une chanson anti-masculinité toxique qui parle avec sarcasme de la place que prend l'homme cis, genre hétéro dans l'espace public. Et la chanteuse, parle à la deuxième personne du singulier, donc elle s'exprime sur un ras-le-bol qu'on peut souvent ressentir dans la rue, dans le métro ou encore en discussion avec des personnes qu'on aime bien hein, souvent. Et donc sur ce, je vous fais écouter la deuxième moitié de ce morceau qui fait bien la musique, mais prêtez attention aux paroles. C'était Litige, j'espère que vous avez kiffé. Le morceau s'appelle Bulldozer, il est sur l'album En eau trouble, dont j'adore d'ailleurs l'artwork. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est impossible à définir, mais je l'afficherai bien dans mon salon. Voilà, un morceau qui m'a aidé à me requinquer cette semaine. Et surtout, bon rétablissement à toutes les malades et tous les malades.
Et merci Louise, et puis merci Flavie. Je pense que maintenant nos auditeurs et auditrices ont de quoi remplir leurs oreilles et leurs agendas pour aller en concert. On continue tout de suite avec Lulu Von Trapp et on écoute tout de suite Les mots d'amour.
Oui, oui, dis-moi des mots d'amour, encore une fois, toujours, qui résonnent dans ma tête.
Tu danses?
Passer, arriver.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez La Bringue. Nous sommes toujours avec le groupe parisien Lulu Von Trapp et on écoutait un de leurs singles phares, Les Mots d'Amour, que vous allez nous interpréter en acoustique tout à l'heure, en inédit pour La Bringue.
Inédit Murphy.
Et oui. Et oui. Donc, d'ailleurs, le clip de cette chanson est assez fantastique. Bon, comme tous vos clips, hein, je dois dire. Vos clips racontent toujours des histoires un peu trashy. On est entre la pop et le baroque. Parce que chez Lulu Von Trapp, on aime bien les paillettes, les engueulades, les baisers langoureux et puis s'écraser du gâteau rose sur la tronche, quoi. Donc,
mais c'est un peu notre quotidien.
Ouais, c'est ça.
On fait tout ça de façon quotidienne.
Donc, vos clips sont des documentaires en fait du quotidien, c'est ça ?
Il y a de ça. Hein.
Ouais.
Inside Lulu Von Trapp, ouais, c'est ça.
En tout cas, vu que les clips émanent directement des paroles qui émanent directement de nous, eh bien ouais, c'est
un petit bout de votre quotidien. Voilà. C'est important pour vous l'aspect visuel ?
Très.
C'est totalement lié à la musique.
C'est ouais, enfin il y a pas de musique sans image vraiment pour nous. C'est enfin c'est justement quand on parlait d'art total tout à l'heure, tu vois, c'est exactement ça. Genre chaque chanson, mais même au-delà, enfin le groupe et son imaginaire véhiculent des images, des costumes, des sensations, tout. Tu vois, genre c'est notre rêve, c'est d'un jour faire un album qui serait la BO de notre propre western, quoi. Tu vois, c'est on kiffe ce...
C'est un projet en plus.
Ah ouais ?
Enfin ouais, on est très attaché à ce parallèle-là, quoi.
Ah, le parallèle avec le cinéma aussi, ouais. Le visuel, et puis là, très clairement, le cinéma aussi.
Mmh. Oui, 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 bah, enfin, l'expression cinématographique, si on veut, de...
Ça vous inspire d'ailleurs, le cinéma ?
Énormément, ouais.
Vous avez des films à nous citer ?
Ouais, des films, là, comme ça,
ou
je sais pas.
Des réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices qui vous inspirent ?
Des personnages.
Zorbeck le Grand.
Non, mais aussi bien... Fellini que Chat Noir, Chat Blanc, que Kurosawa, je sais pas, genre...
Que de la grosse série B.
Que de la grosse série Z. Ouais.
Ah oui, vous pouvez. Hein.
Mais ouais, on est, bah, c'est comme la musique, on est un peu.
Éclectique.
Ça va du blockbuster au film expressionniste allemand.
Ouais, c'est assez varié finalement.
On bouffe de tout, quoi. On est.
Ouais, c'est le salon de l'agriculture.
Moi, je pensais au Rocky Horror Picture Show aussi.
Hein. De ouf. Ouais,
bah, je l'ai revu récemment, c'est fantastique.
Un peu rock.
C'est fabuleux.
Un peu ringard, on kiffe trop, ouais.
Ça fait à la fois.
C'est super ringard, mais on est un peu ringard en fait. Du coup,
ouais, ça coule le kitsch, mais en même temps, c'est série B, et en même temps, c'est de la comédie musicale. Il y a tout un travail sur le théâtre, le jeu, les costumes, un peu comme chez Lulu en fait.
Ouais, non, mais grave, ouais, le Rocky Horror Picture Show, c'est genre une énorme inspiration pour moi. C'est fabuleux.
Et sur scène, comme dans vos clips, vous portez aussi des fringues extraordinaires, vous êtes maquillée, vous donnez un véritable show. Que symbolise pour vous la mise en scène ?
Comment ?
Que symbolise pour vous la mise en scène ?
C'est exactement ça. Alors, en fait, la mise en scène de nos spectacles, elle permet quelque part en fait de transcender l'idée d'un simple concert, tu vois. Et encore, on n'est qu'au tout début, tu vois. On n'a pas trop de thunes, on bricole tout nous-mêmes. On a de la chance parce que genre, je sais pas si, enfin, c'est merveilleux parce que genre toutes nos copines et nos copains genre sont tous des gens incroyablement talentueux. Et qui nous aide à faire nos scénographies, nos costumes, nos maquillages. Enfin, genre, c'est génial. Mais ouais, enfin, c'est une façon en fait de se défaire aussi du truc un peu égocentrique du concert. Tu vois, genre, on va voir nanana en concert. En fait, non, tu vois, on crée une putain de mise en scène, on fait tous ces costumes et tout, mais en enjoignant les gens à le faire aussi. Et à venir aussi, justement, enfin, vu qu'on vient de Paris, forcément, c'est nos concerts parisiens qui ont le plus d'ampleur pour le moment. Et donc, c'est ceux-là qu'on appelle nos balles, parce que c'est là qu'on a toute notre crew, quoi, qui vient. Et en fait, c'est l'occasion pour nous vraiment de créer un petit théâtre et dont on ne serait pas forcément les héros, quoi, dont tous ceux qui veulent en être le seront. Et où tu peux vraiment... je sais pas, vivre tous tes délires, quoi, pendant une soirée. Et je pense que c'est ça la beauté de notre métier, quoi, c'est de pouvoir apporter des moments comme ça. Et donc ouais, on se met plein de costumes pour pouvoir jouer. Que les gens puissent mettre plein de costumes aussi, et
ouais,
pour que les gens puissent choisir aussi de se foutre à poil comme nous on a envie de se foutre à poil parfois. Et genre,
Il y a une certaine liberté aussi dans ce jeu, en fait.
Bah, c'est vraiment... on est dans un monde de plus en plus anxiogène. Et si nous, on peut, à travers notre métier, apporter une heure d'oxygène aux gens, c'est tout ce qu'on demande, quoi.
Et Lulu Von Trapp, en parlant de personnage, c'est un personnage.
Oui, un peu.
C'est une manière pour vous de déguiser le groupe aussi.
Ouais, on peut dire ça. Bah, de toute façon, un nom de groupe, c'est forcément... Il n'y a que Crosby, Stills, Nash & Young qui n'ont pas fait ça, quoi. Mais c'est forcément un déguisement, un nom de groupe. Enfin, forcément, tu... c'est comme... c'est comme un super-héros qui enfile sa cape pour aller... sauf que nous, on se situe plutôt à l'inverse. Je pense qu'on n'est pas très doués de super-pouvoirs. Mais ouais, enfin, c'est forcément ça, quoi, un groupe. Et donc, nous, on a envie d'incarner ça au maximum, quoi, tu vois, de pas seulement avoir un nom, mais avoir des costumes, machin et tout, et de rôder dans la nuit, quoi, tu vois.
Mais c'est drôle, ce personnage, c'est votre personnage, c'est vous quatre, ou c'est quelqu'un à part, comme ça, qui incarne le groupe, c'est...
Non, je pense que c'est nous quatre, genre, tu vois, souvent, on nous appelle les Lulu, genre, je pense que c'est vraiment
c'est un
nous
peu
quatre.
La maison Von Trapp, quoi. Ouais.
C'est la famille Von Trapp.
Et il vient d'où ce personnage alors avec son nom Lulu Von Trapp ?
Bah, c'est une histoire, je sais pas, en fait j'ai beaucoup raconté cette histoire donc je sais plus si elle est marrante ou pas. Mais
essaye.
On va voir, chers auditeurs, nous allons voir. En fait, ce nom, c'était dans un projet passé avec Max où on faisait tout en autoprod, hyper indé, on jouait que dans des squats et tout machin. Donc. Voilà, on était hors des circuits complètement et on s'est rendu compte que parfois on ne nous prenait pas trop au sérieux. Tu vois, quand j'envoyais un mail, genre « Salut, c'est Rebecca, on a très envie de venir jouer, machin. » Enfin, ça marchait pas. Et du coup, on s'est créé deux avatars. Moi, le mien, c'était Lulu Von Trapp. Et j'étais la fausse manageuse du groupe. Mmh. Et genre, tu vois, j'avais fait des photos et tout, j'avais mes petites adresses mail et tout, et à chaque fois on arrivait en concert, c'était elle est où Lulu ? Elle est malade, désolée. Elle était horrible au téléphone et tout, et j'avais un accent un peu d'outre-tombe, genre de vieille chanteuse de cabaret, tu vois, qui fumait des très grandes clopes, tu vois.
Énorme clope.
Et voilà, c'est. Je sais pas, en fait, quand ce groupe s'est fini, on s'est retrouvé avec ces deux avatars avec des noms un peu cool. Celui de Max, c'était Abraham Chance.
Ah oui.
C'est pas mal
pas
aussi.
Mal non
mais
plus.
Ça aurait été pas mal si on avait fait de l'électro, tu vois.
Ah genre, oui, c'est vrai. Ça je pense qu'on aurait fait un groupe d'électro.
DJ Abraham Chance.
Ouais, ça aurait été vraiment vénère.
Ouais.
Mais du coup, vu que. Je sais pas, et puis il y avait un truc dans Lulu Von Trapp où c'est un nom sans genre aussi.
Ouais.
Et
oui.
Ça nous plaît assez parce qu'on est un groupe mêlé.
Un groupe mixte,
de sans mêlé.
Enfin, de mixte et mêlé. Et voilà. Enfin, donc, on aimait bien l'idée d'être non-genré dans notre nom aussi. Quoi.
Donc là, on a des clips, on a un personnage, on a de la musique. En fait, vous avez bâti tout un univers sonore et visuel autour de Lulu Von Trapp.
C'est exactement ça.
Est-ce que vous avez le sentiment de dépasser le simple groupe de musique ? On parlait d'art total tout à l'heure.
C'est clair que je pense que la musique, en fait, est notre moyen de communiquer... Enfin, en tout cas, je parle peut-être très personnellement là, mais la musique est notre moyen de communiquer nos rêves, nos idéaux, nos angoisses, de aussi réparer ces choses-là, de aussi soigner ces choses-là. Mais je pense que c'est parce qu'on sait un peu mieux faire de la musique que d'autres choses.
Mm-hmm.
Donc, il s'avère que c'est la musique, mais ça ne nous empêche pas d'avoir envie de nous exprimer à travers. Plein de médiums en fait. Et moi je sais que ma façon d'envisager le chant, c'est très proche de la comédie, c'est proche de plein de choses. Quoi. Enfin, ça se fait à travers la performance. Ça peut pas se cantonner juste à la musique, quoi. Ce serait trop étroit.
Mais de toute façon, la musique, elle insuffle quelque chose d'autre en fait, qui est l'écriture, qui va être la composition.
De toute façon, la musique en fait, c'est un médium génial pour ça. C'est parce que ça rassemble tellement de choses, quoi. Enfin,
c'est pas figé dans une case en fait.
Pas du tout.
Donc forcément, ça donne envie de faire autre chose et d'aller voir ailleurs. Dans une interview à Manifesto 21, vous disiez « Nos chansons ne transpirent pas la politique, mais expriment ce que nous sommes et nos interrogations permanentes. » Êtes-vous un groupe engagé, Lulu Von Trapp ?
Je pense que ce serait malhonnête de dire que que tu... Enfin, je sais pas, ce serait malhonnête de prétendre faire de la musique comme on l'a fait maintenant et de juste être apolitique dans son geste. Après, on n'est pas encarté. On va en manif selon nos sensibilités personnelles aux uns et aux autres et tout. Et c'est vrai que voilà, nos chansons sont pas forcément politiques, mais justement, ça je le disais dans une autre interview, mais c'est intéressant parce qu'en ce moment, on est en train de préparer un peu notre prochain album. Et justement, je me prends grave la tête sur les paroles parce que autant sur ce premier album, on était en train de vivre tous des espèces de changements pas possibles, des grands chagrins d'amour et tout. Donc les paroles étaient d'une évidence folle sur ce premier album. Mmh. C'était juste, il fallait exorciser tout ça très fort.
Donc ça coulait de source.
Et là, je me prends la tête, mais genre de ouf, parce que j'ai pas envie de... Enfin, c'est sûr qu'on va pas sauver le monde à coup de chansons d'amour. Mmh. De toute façon, on n'est pas là pour sauver le monde, mais bon, qui sait. Tu vois. Et je sais pas, oui, l'amour c'est le sujet le plus universel et c'est sûr que c'est la plus belle arme de combat. Et donc de toute façon, notre musique transpire ça. Mais c'est vrai que je me prends vachement la tête sur qu'est-ce que ça va être le contenu de ce prochain album, quelles vont être ses paroles, tu vois, parce que on a tous beaucoup changé, on s'est tous radicalisés, on s'est tous éveillés à beaucoup de choses pendant aussi cette période. Le Covid nous a éveillés à beaucoup de choses aussi.
MeToo aussi, j'imagine.
Oui, le MeToo, c'est plus ancien, mais bien sûr, enfin, toutes ces choses-là gonflent et grossissent et s'intersectionnalisent. Et, enfin, tu vois, et d'un coup, on se retrouve juste très plein quoi, d'un espèce de cri quoi, qui peut partir dans tous les sens. Et en fait, il faut réussir à le retranscrire et sans... Enfin, la visée de ce groupe, c'est pas non plus de faire des lyrics à la Trio, quoi, tu vois, c'est pas nous. Mm-hmm. C'est pas notre champ poétique, mais par contre, il faut qu'il y ait un champ de guerre quelque part, quoi, là-dedans. Et voilà, donc, oui, on est un groupe avec... parce qu'on est de notre génération, dans la ville dans laquelle on vit, dans le régime politique dans lequel on vit et tout, on est un groupe politique, avec des interrogations politiques. Mais après, c'est sans cesse mouvant aussi, parce qu'on est jeune et parce que tout va très vite et très violemment, quoi. Donc ça bouge, quoi.
Donc la politique, elle est là, mais elle n'est pas forcément transparente dans l'album, mais en tout cas, sur scène, dans ce que vous êtes.
En tout cas, oui, sur scène, on tient à montrer quelque chose de...
D'engager.
Ouais.
Là où ça s'est ressenti, enfin, j'y ai repensé, là, c'est quand vous avez joué au Théâtre de l'Odéon dans la reprise. Ouais. Là, c'était fabuleux parce que tu avais cette grille que tu as vachement utilisée en plus pendant le concert. C'était un moment, je sais pas, techniquement, ça avait l'air d'être un peu galère, mais je sais pas, ça devait être... C'est normal, on n'était pas là pour ça, on était juste là pour faire la fête.
Et c'était le
schlag. Ouais, mais ça devait être hyper intense émotionnellement.
Moi, je pense que c'est le plus beau concert de ma vie.
C'était quoi le concert, du coup?
En gros... tu sais, il y a eu ce mouvement des occupations des théâtres.
Oui, bien sûr.
Et du coup, je me suis mise à rôder du côté de l'Odéon. J'étais là, et c'est là que c'est fabuleux quand même d'être artiste, parce que ça te permet de juste jeter des ponts comme ça. Genre, tu vois, c'est-à-dire, j'aurais été Rebecca Lambda, tu vois, bah, j'aurais été là, je peux venir, mais bon, je sais pas, j'ai des idées, oui, j'ai des choses qui m'animent, mais voilà, j'ai aucune idée de rien. Mais par contre... Mais tu vois, je suis allée les voir et je leur ai dit « On a trop envie de jouer pour vous, de manifester en faisant de la musique avec vous, de vous rejoindre et tout. » Et tout de suite, bah ouais, grave, venez, tu vois. Et du coup, on les a rejoints, on a passé 3 jours avec eux. C'était une des expériences politiques et humaines aussi par rapport au moment où on était genre les plus belles de ma vie, moi. Enfin, genre, c'était fou, quoi. Parce que c'était à la sortie du confinement, du coup. Et il n'y avait encore aucun concert à Paris. Enfin, il n'y avait pas eu de concert encore à Paris, je crois.
Il n'y avait pas encore le pass sanitaire.
Non, mais il n'y avait rien. C'était quand en... C'était en mars.
C'était fin avril ou non. Début mai.
Il me semble que c'était au printemps.
C'était juste après la sortie de notre album. En fait, on était là, on n'a pas de release party et tout, machin, on avait un peu le mort. Mais c'est pas tellement pour faire une release party, genre juste on a vu ce truc, on était là, on ne peut pas juste ne pas essayer d'en être. Et donc, ils ont été incroyables. C'était une ambiance, mais Enfin, tu sais, genre, on s'est rendu compte en étant là-bas qu'en fait, on était dans une espèce de... Enfin, tu vois, c'est marrant parce qu'on jouait derrière des barreaux, mais je me suis jamais sentie aussi libre que quand j'ai joué derrière ces barreaux-là. Genre, et j'ai réalisé à quel point on s'était fait mettre en cage depuis oui. un an et demi que c'était la merde, tu vois.
Et oui.
Et genre, d'un coup, j'étais là, mais putain, ces barreaux, je les tiens entre mes mains, enfin, quoi. Tu
et
vois,
là,
genre,
tu peux exprimer.
Les éclater, ces barreaux. Et c'est la musique qui peut les éclater, parce que qu'est-ce qui a fait aussi que tous ces gens étaient là? Bah, c'est qu'il y avait de la musique, quoi. Et genre, il y avait 400 personnes, et c'était fou. C'était incroyable. Et enfin, je sais pas, j'ai peu de mots pour parler de... Je sais pas, de à quel point c'était beau, quoi, comme moment.
Et ce genre d'expérience qui est hyper marquante, j'imagine qu'on va le ressentir dans votre prochain album?
Bah, j'espère.
Qu'est-ce que vous prévoyez du coup pour la suite?
Bah alors, avec déjà, cet album. L'album là pour le moment, enfin j'en parle, mais chut.
On en parle tout doucement.
On n'en parle pas trop. Oui, pour le moment il est en composition l'album. Hein, c'est enfin voilà, c'est bien sûr un projet très prochain, mais voilà, il y a pas de date, rien du tout. Là, qu'est-ce que c'est là pour le moment? On fait notre tournée qui est belle et où on rencontre plein de gens, plein de scènes, plein d'équipes, trop chouette. Et le 7 avril, on sera à la Maroquinerie pour justement notre prochain bal. Non, c'est le 7.
Oui, c'est le 7 avril 2022 à la Maroquinerie.
Encore une fois, je me suis trompée.
Bon, bah, le 7 alors.
C'est le 7.
Ou le 8, on ne sait plus. Mais...
C'est le 7 avril.
Merci. Donc le 7 avril, on sera
à
la Maroquinerie pour notre bal de l'amour.
Du coup, merci Max, Rebecca, Manu de Lulu Von Trapp. On pense aussi à Nico. On va vous laisser prendre place pour le live inédit en acoustique. Et en vous attendant, on patiente sagement avec une petite playlist. Pour ouvrir cet instant musical, on a choisi Let's Dance de David Bowie.
Parfait.
Car il paraît que c'est l'une de vos influences. Un petit mot sur David Bowie?
Beau gosse.
Génie.
Feel the grace fall.
c'est surpuissant et trop court. Mon cœur qui souffle, mais qui bat contre temps, et je m'engouffre dans ce sublime néant.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, vous écoutez La Bringue et c'est au tour de Lulu Von Trapp de nous dévoiler son live. Bon concert.
Vous êtes prêts ?
Bien, moi.
De nos deux amours secrets. Dans la jungle siffle les ombres, le temps s'effile sans regret. La nuit, j'ai parlé, je m'ennuie, j'assure, bien seul au paradis. À la merci des prédateurs, ils viennent de la jungle apaisée, mes frayeurs, parfois le poisson le chasseur. Ils viennent dans mon lit pour rêver, je gis d'envie qu'ils partagent aussi. Souvenir.
sert la chair de notre désir animal. Maintenant, je dois aimer en homme plus de tigre et d'amour, chien. Mon château de sable est détruit par les vagues. Elle aime dans la ville cannibale. Et aujourd'hui, mes amours clandestins se font voir sans lendemain.
C'était Korean BBQ. Et maintenant, on va faire.
Des petits mots d'amour.
Voilà. Des petits mots d'amour.
Ready, cowboys? Au fond d'un verre, derrière
mes yeux embués par le passé.
Avancer de tous ces silences embarrassés.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez toujours La Bringue. C'était le live inédit acoustique de Lulu Van Trapp. Merci les Lulu.
Yes.
Merci, c'était trop bien.
C'était trop cool. On a écouté Korean BBQ et évidemment Les Mots d'Amour.
Eh oui.
Votre tube.
Bien sûr,
on peut dire que c'est un tube.
Le tube absurde.
On a encore quelques questions pour vous. On a un peu le temps.
Des questions.
Manu, tu veux
répondre
aux questions? Allez. Bonjour. Deux questions
pour Manu. Allez, alors les Lulu, on vous a vu au Mama Festival jeudi dernier à la machine du Moulin Rouge qui était pleine à craquer. C'était le feu, juste avant Structures, je crois. Avant Gargantua avant, ouais. Et...
4 heures avant Structures.
Il y avait Gargantua et il y avait...
Souléance.
Yes.
Et Structures qui a fermé la machine après.
Ouais, ils ont fermé depuis.
C'est ça.
Est-ce que ça vous a plu de jouer au Mama et en plus à la machine du Moulin Rouge?
C'était incroyable. Hein.
Ouais, on c'était peut trop le dire. Stylé. Ouais.
C'était un beau retour au quartier en plus parce qu'on affectionne la place Pigalle et tout ce qu'il y a autour.
Elle nous le rend bien.
Et elle nous le rend bien. Du coup, non, très bonne sensation.
Ouais. Ouais, ouais, non, c'est émouvant de. De jouer dans le TIEC, quoi. Parce que c'est vraiment chez nous. Et du coup, c'est cool de... Je sais pas. De voir tous les gens avec qui on rôde d'habitude. Tous rassembler la machine. Et puis, c'est une salle qui est chambée. On avait envie de jouer depuis longtemps, quoi.
Mais c'est parfois un petit peu dur de jouer devant un parterre quasiment que de pros. Mais ouais. Là, je crois que l'ambiance était bien au rendez-vous.
Bah, c'est bizarre, hein. Parce que... Tu vois, genre, t'es vraiment en représentation, quoi. Alors que pour nous, genre, vraiment, le but d'un concert, c'est de pas être en représentation. C'est d'être à Walp. Et... Non, mais tu vois, c'est d'être justement... Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, d'être à l'inverse de la représentation, d'être dans un truc, genre, d'honnêteté et de contact direct avec le public. Et genre, ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, c'est ça qu'on recherche.
Après, j'avoue, pendant le concert, moi, j'ai pas trop pensé à ça, quoi. C'était un peu un concert comme les autres, avec un public composé de gens divers. Mais c'est sûr que dès qu'on est sorti, on avait plein de gens avec qui parler et tout. Un exercice où Rebecca excelle particulièrement.
Business is business.
Exactement.
On a évoqué tout à l'heure la date de la Maroquinerie le 7 avril. Du coup, ce sera quelque chose de plus vous, j'ai envie de dire. Ce sera le
aucun pro n'est invité.
ça s'appelle le bal de l'amour. Du coup, voilà, ça porte bien son nom, j'imagine.
Grave.
Bah, on espère. Hein.
Ouais, on est encore en train de réfléchir à tout ce qu'on va pouvoir faire. C'est génial, en fait, quand t'as une espèce de carte blanche comme ça, t'as l'impression de pouvoir... faire ta propre version de Disney, quoi. Genre,
il y aurait un parc d'attractions dans la Maroc.
Ouais, voilà. Non, mais genre, je suis en train de péter des câbles sur les possibilités de Céno et tout. Genre, ça me réveille la nuit. Voilà.
Il faut savoir que le jour où on aura de l'argent, ça va être encore plus incroyable. Et donc, préparez-vous bien. Parce que...
Et donc, pour ça, achetez des disques. Donnez-nous
oui, voilà. Pour ça, donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît.
Allez au concert.
Et pour patienter du coup jusqu'à cette date fatidique, le 7 avril 2022, vous avez prévu d'autres dates, d'autres projets?
Ouais, on a plein de trucs.
On a pas mal de dates, ouais, on en a 5 ou 6 là jusqu'à la fin de l'année déjà.
Ouais, on va retourner dans le sud-ouest qu'on aime tout particulièrement.
Je crois qu'on a un sud-est aussi début 2022.
On a un sud-est. On va au primeur, ouais.
On va à Marseille aussi, on va Montpellier. À Marseille.
Je sais plus.
Vous êtes accompagné pour les dates d'ailleurs ?
Ouais,
on est chez Furax.
D'accord.
Ouais. Qu'on embrasse. Elliot, le sang.
Bah oui, c'est bien de parler aussi des entourages et des gens qui vous aident.
Bah ça, surtout que. Enfin, non, vas-y.
Donc, bah oui, depuis peu, on commence à être quand même pas mal entouré. Et c'est vrai que ça change tout. Hein. Partir sur une date, avoir un tour manager, avoir.
En van avec la PlayStation.
Voilà. Des hôtels qui sont réservés, des trucs comme ça. En fait, le confort, ça pourrait passer pour du luxe. Mais en fait, quand tu fais beaucoup de dates et tout, c'est quand même cool de pouvoir dormir un peu.
Ça libère un peu l'esprit aussi le reste du temps. Quoi.
Grave. Mm. Surtout que c'est vachement mieux que chez nous. L'hôtel. En tout cas, moi, c'est vachement mieux.
On passe tous les Ibis de France.
Ça doit faire plaisir de retrouver la scène aussi après un an et demi, deux ans sans concert, sans festival.
C'est ouf.
C'était pas votre première date de reprise, le Moulin Rouge ?
Oh non, non, notre première date de reprise, c'était l'Odéon. L'Odéon, justement. C'était la première date. C'était la première date. Mais c'est génial, mais surtout genre il y a un espèce de je sais pas de surplus de violence un peu genre dans les concerts, mais une violence hyper joyeuse, hyper bienveillante et tout, genre c'est très bienveillant. Et genre les gens ont envie genre de tout casser quoi, et nous aussi. Mais genre c'est assez cool, genre la vibration qu'il y a en concert en ce moment.
On termine sur ça, du coup, cette note de rage joyeuse. Je pense que ça vous définit bien, c'est pas mal.
Carrément.
C'est nous.
C'est merci beaucoup, Max, Rebecca, Manu. Pensez à Nico aussi, évidemment, puisque vous êtes quatre.
Merci beaucoup.
Merci Flavie, Louise, merci Étienne aussi.
Merci Étienne.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, dans l'onglet La Bringue. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, attention, @la-8-bringue-8-radio. J'espère que vous avez bien noté. Merci encore une fois. Merci encore une fois, Lulu Von Trapp, d'avoir relancé la machine avec nous ce soir. On se retrouve mercredi 1er décembre, même endroit, même heure, avec des invités surprises. En attendant, quoi de mieux que se quitter sur du Jefferson Airplane. Yes. When the truth is found to be.
That's right.